Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Et c'était « Il y avait un orme » d'Anne Sylvestre. Alors une chanson pour les enfants, mais pourtant qui en dit déjà un mot sur le changement climatique, si on veut l'interpréter comme ça, en tout cas à l'avenir des forêts, et aussi sur le rapport aux arbres qu'on peut avoir lorsqu'on est enfant notamment, mais pas que. Alors peut-être pour introduire justement cette thématique du rapport à la forêt, Sébastien Fine, donc vous êtes maire de Villars-Saint-Pancras, vous avez grandi aussi dans cette ville. Quel est votre orme à vous ? Dans quelle forêt avez-vous grandi et quel était votre rapport ?
Ben, comme beaucoup d'enfants du pays, on a vécu au pied de cette forêt de Mélèze. Puis après, la vie a fait qu'on est parti faire des études. Puis finalement, on n'a pas trouvé des lieux qui s'y rapprochaient tellement et on a souhaité revenir au pays. Cette forêt de Mélèze, elle berce nos enfances, elle a bercé mon enfance. Je me considère comme quelqu'un de privilégié, hein, puisque avec un pied à terre au milieu de cette forêt de Mélèze. Un petit chalet au Mélézin dans lequel, durant ma jeunesse, je passais une bonne période estivale parce que, bon, pas de centre aéré. Et cette forêt, je l'ai côtoyée, je l'ai traversée de long en large, en travers. Et moi, mon lieu de prédilection, c'était de sortir du bois du Mélézin pour aller vers un lieu qu'on appelle Plan Vallon, qui est un lieu chargé de souvenirs et qui permettait à la fois on franchissait cette étape, c'est-à-dire on sortait de cette forêt de Mélèze et puis on arrivait dans une sorte de clairière bien ouverte et on passait des après-midi à courir, à jouer autour de l'eau. Et quand on redescendait le soir un peu tard, 18, 20 heures, parce que l'été, avec la famille, on prenait le temps, mais on retraversait cette forêt de Mélèze pour nous amener jusqu'au chalet. Et puis après, d'année en année, voilà, sur le village, on n'avait pas que la forêt de Mélèze du Mélézin, on a d'autres secteurs qui sont emblématiques, le Grand Bois des Ailes, la Grand Maille, voilà, il y a d'autres secteurs qui... ce que j'ai appris au cours du temps et au cours de ma vie, c'est que... cette forêt, et la forêt de Mélèze surtout, elle se mérite et elle s'entretient. Et l'entretien d'une forêt de Mélèze a aussi parfois un coût, parce que si on veut préserver ces paysages-là pour les générations futures, mais il faut qu'à l'instant présent, on soit aussi en capacité d'être dans l'action.
Ça, c'est votre regard de maire de la commune, alors, puisque en tant que maire, c'est une forêt communale. Quelles sont vos responsabilités en tant que maire sur cette forêt ?
Bah écoutez, nous, depuis bon nombre d'années, on a confié la gestion de cette forêt communale à l'Office national des forêts, puisque moi je me prétends pas forestier. La gestion est confiée à des professionnels qui sont en capacité de nous orienter, de nous aiguiller, de nous faire des propositions qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, mais on a des propositions sur la table et on essaye d'avancer ensemble. Concrètement, par exemple, on avait encore une parcelle dans cette forêt qui était gérée communalement depuis l'après-guerre. Et très récemment, là, 2 ans, le conseil municipal a décidé que cette parcelle qui n'était pas gérée, puisque la volonté à l'époque du conseil, c'était de conserver un endroit où on pouvait éventuellement s'alimenter en bois pour de la charpente, pour autre chose. Mais cet espace-là, qui représentait plusieurs hectares, comme il n'était pas géré, il se refermait. Et finalement, cette non-gestion n'amenait pas de plus-value à notre forêt. Et donc, du coup, on a décidé de la confier à des professionnels. Et les professionnels, c'est forcément l'Office national des forêts et leurs techniciens et techniciennes qui nous accompagnent régulièrement.
C'est là que vous intervenez, Juliette, alors, sur la gestion de la forêt de la commune. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette commune en termes peut-être un peu plus techniques, en restant quand même accessible à toutes et tous ?
Oui, tout à fait. Alors, comme l'a dit Monsieur Sébastien Fine, on est en tant que technicien à l'ONF en charge de la gestion de ces forêts communales. Ce qu'il faut savoir, c'est que les forêts communales, elles sont, par le code forestier, soumises au régime forestier. C'est dans ce cadre-là que l'ONF en est gestionnaire. Et effectivement, on fait des propositions annuelles à la commune avec des travaux sylvicoles, donc des travaux en forêt, mais aussi des projets de coupe forestière, des projets d'entretien, d'accueil du public. Voilà, c'est vraiment très très large. Et notamment au niveau de la réserve du Bois des Ailles, donc qui est un petit peu au-dessus, on va aussi avoir beaucoup d'accueil du public à gérer. Et donc à ce titre-là, on fait aussi des propositions pour améliorer l'accueil, pour aussi que ça se fasse au mieux, en fait, tout simplement, que l'accueil du public se fasse au mieux et non au détriment de la forêt ou alors au détriment des objectifs de la commune. Voilà.
Donc ça passe par de l'aménagement du territoire, si on peut utiliser ces termes, pour de la forêt, ou par aussi de la sensibilisation du public qui est accueilli.
Oui, concrètement, tout à fait. Par exemple, au niveau du Bois des Ailles, on a mis en place, alors mon prédécesseur et moi-même, un sentier pédagogique qui monte au chalet du Thor. Et ce sentier pédagogique, il a pour but de donner des connaissances aux promeneurs et de les canaliser aussi sur ce sentier, de faire en sorte qu'ils y passent et qu'ils puissent apprécier la balade tout en ressortant grandi et avec un regard parfois autre sur la forêt aussi, qu'ils soient plus attentifs par exemple à des détails qu'on ne regarde pas au premier abord.
Et cette forêt alors de la commune de Villers-Saint-Pancras, cette forêt communale, elle est essentiellement composée de mélèzes. Est-ce qu'il y a d'autres essences d'arbres qu'on trouve?
Alors effectivement, il y a d'autres essences. On va avoir des secteurs. Par exemple, quand on est en dessous de la Croix de Bretagne, on est plutôt sur des secteurs séchants avec des pins sylvestres, des pins crochets, voilà, des essences un petit peu plus adaptées à des climats plus secs sur ces versants-là. Alors que le mélèze, on va le retrouver plus haut en altitude historiquement. Tout comme le pin sambreau, on le trouve encore plus haut. Donc voilà, on va avoir des étagements qui se font en fonction de ce qu'on appelle les stations forestières, des climats et du sol en place sur les parcelles. Et donc, on va avoir une gestion différente. Notamment, au niveau, au-dessus de la route des Espagnols, à côté de Saint-Martin-de-Carrière, frontalier, on a beaucoup de sapins. Voilà. Historiquement, on a beaucoup de sapins qui étaient présents et qui remontent, qui se mélangent en fait aux mélèzes. Et donc, nous, en tant que technicien et M. Sébastien Fine en tant que maire, on va apporter des propositions, des solutions aussi, pour la gestion future. Et si on veut par exemple conserver les mélèzes, comme l'a très bien dit Sébastien Fine, il faut qu'on puisse intervenir par exemple pour lui laisser la place, pour lui permettre de se régénérer naturellement par des travaux, par des coupes, et quitte à parfois couper un arbre au profit d'un autre, couper une essence au profit d'une autre. Voilà.
Et donc dans cette réflexion sur la forêt et l'entretien de ces forêts, vous participez, si on peut dire, à un projet, le projet Forêt Commune, dont je parlais en introduction. C'est là que vous intervenez, Lucie Lombard, de l'association Forêt Alpine. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce projet ?
Alors, Forêt Commune, c'est un projet qu'on a construit et qu'on développe toujours de manière participative sur différents axes sur les forêts. Donc, il y a des communes comme Villers-Saint-Pancras, il y a l'Office national des forêts, l'Association des communes forestières, aussi l'Association Environnement et Solidarité qui fait de l'animation. Il y aura Clémence qui sera là aussi à l'événement dont on parlera tout à l'heure. Et on va travailler aussi avec des chercheurs, des scientifiques, notamment de l'INRAE, qui sont pas sur place, mais qui travaillent sur les forêts du territoire. À Villers-Saint-Pancras, ils travaillent sur l'adaptation de ces forêts et du mélézin au changement climatique. Donc ça nous concerne tous aussi, et la forêt communale nous concerne tous, chacun avec son approche, ses intérêts, et c'est aussi cette conciliation entre différents usages, différents besoins sur la forêt, et travailler collectivement aussi s'il y a des points de tension, on va travailler sur ça aussi, et ça passe par se rencontrer, dialoguer, apprendre de l'autre sur la forêt communale. Donc il y a plein d'axes. Et on apprend, on découvre, et je pense que là, le projet Forêt Commune touche à sa fin. Et une des plus-values, c'est de découvrir la forêt aussi par les connaissances des autres, de se rencontrer, d'échanger sur les forêts.
C'est aussi ce que vous proposez, entre autres, pendant cet événement samedi, on y reviendra aussi. Mais est-ce qu'on peut définir l'objectif ou les objectifs concrètement du projet ?
Donc on a des actions participatives sur les forêts communales. À Villers-Saint-Pancras, on a fait en introduction des sorties où on allait découvrir l'environnement. On a fait découvrir les oiseaux en écoutant par le chant pour apprendre à les identifier. On a fait des observations des arbres, des sciences participatives, comment par nos observations des arbres on peut participer aux connaissances scientifiques. Et ensuite on s'est inscrit dans des événements de la mairie et de la commune avec la fête communale qui a eu lieu ce printemps où on a fait un stand, une rencontre sur la forêt communale, donc plusieurs espaces de rencontres, d'apprentissage sur la forêt. On a aussi tout un volet scientifique sur l'adaptation des forêts au changement climatique et d'observation avec des capteurs connectés qu'on a installés dans la forêt qui mesurent en temps réel comment va la forêt. Par exemple, il y a un capteur qui est posé sur un arbre et on peut voir en temps réel les micro-variations de l'arbre. En fait, il y a le tronc qui a des petites variations et on voit vraiment la vie de l'arbre, comment il évolue. En fait, la journée, par exemple, il transpire en été et il va avoir un diamètre un petit peu plus petit et la nuit, il va reprendre de l'eau. Et en fait, on voit vraiment cette vie de l'arbre. Et si, par exemple, pendant l'été, il a chaud, il y a des périodes où il pleut moins, on va voir qu'il manque un peu d'eau, donc son diamètre est un petit peu contraint. Donc, on se met un petit peu dans la peau d'un arbre, comme je disais tout à l'heure.
Et de ces données que vous recueillez, vous allez en faire quoi ?
Ben, le but, c'est déjà d'apprendre la vie de l'arbre qu'on ne connaît pas forcément. On connaît beaucoup la faune, la flore, on connaît un petit peu moins, donc c'est d'amener ça aussi. D'ouvrir les échanges aussi sur le changement climatique et l'adaptation des forêts et après d'avoir des connaissances à terme, d'avoir des connaissances scientifiques sur les évolutions de la forêt par différents paramètres comme la variation du diamètre de l'arbre et d'autres paramètres aussi.
Et alors ce qui est intéressant, c'est que justement ces études scientifiques, ces suivis permettent aussi à nous en tant que gestionnaires de pouvoir orienter la gestion au mieux et transmettre ces informations aussi à la commune.
Et donc ça, ce sont des objectifs aussi donc pour les habitants de la commune. Sébastien Fine, en tant que maire, vous avez été moteur pour participer à ce projet. Pourquoi c'était important pour vous ?
La forêt, déjà la forêt en elle-même, c'est une force sur notre territoire. Une force parce que à l'intérieur, il y a un développement de la biodiversité, il y a un développement de, à la fois de la protection du village, de la retenue d'eau, qui permet aussi d'avoir des sources qui permettent d'avoir de l'eau potable pour les habitants du territoire, etc., etc. Et puis derrière ça. Moi, on avait l'intention de regarder le caractère multi-usage de cette forêt. Parce que finalement, Sébastien Fine, il en a un usage. Il promène, il traverse. Et puis, d'autres habitants de la commune en ont un autre usage. Parfois, chasseurs. Des chasseurs traversent cette forêt. Les promeneurs, les touristes, les bergers. Qui également, au niveau du pastoralisme, utilisent, ont besoin de ces espaces-là pour l'été, mettre leurs bêtes en alpage. Et c'est eux aussi qui ont permis de façonner le paysage que l'on a à l'heure actuelle sur la vallée des Ailles et sur le Mélésin. Donc tous ces usages-là, des promeneurs, des personnes qui arrivent de Briançon et qui viennent à la chasse aux champignons, comment... dans ce même lieu, avec cette diversité d'usages, on peut éventuellement tracer un avenir commun, qui ne soit pas au détriment de l'un ou à l'avantage de l'autre, et qui permette aussi d'ouvrir certaines réflexions. Je veux dire, nous, la forêt, moi, on me le dit, moi, j'ai besoin de bois parce qu'il faut que je me chauffe, donc la forêt regorge de bois. Et je comprends pas pourquoi la municipalité nous autorise pas à aller abattre les arbres comme on le souhaite pour qu'on puisse se chauffer l'hiver. Tout ça fait partie des réponses que l'on doit apporter parce que cette forêt, elle est gérée, elle a un plan de gestion. On ne fait pas comme on veut. Et pourquoi on ne fait pas comme on veut ? Parce que ça serait, à mon sens, destructeur pour les générations futures. On a vu les forêts reculer en France à certains siècles parce qu'on avait un besoin impérieux de l'utilisation des bois. À l'heure actuelle, les forêts regagnent, on est d'accord, mais il faut qu'on les regarde avec une très très grande attention. Et c'est pour ça que ce projet-là, en fait, pour moi, va faire émerger peut-être une volonté, parce que ce plan de gestion de la forêt va arriver à terme dans les 2 ou 3 prochaines années. Et donc, peut-être que certaines personnes qui participeront à ces ateliers ou qui ont participé à ces ateliers souhaiteront éventuellement apporter à leur niveau leur réflexion, leur pierre à l'édifice, à comprendre comment est-ce qu'on peut-être influer d'un côté ou de l'autre de la réflexion, en sachant que de toute façon on a mis en gestion notre forêt par des organismes qui sont des sachants, et qu'il faudra aussi les consulter et les écouter. C'est-à-dire que moi, ce que je souhaite, c'est que peut-être qu'un comité un peu plus ouvert puisse se mettre en action pour établir la prochaine charte. Mais je souhaite aussi que dans ce comité de réflexion, on soit clair avec les personnes dès le départ. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas forcément les fenêtres et les portes en grand en disant « Allez-y, on va faire tout ce que vous voulez », mais qu'on soit dans une réflexion et puis qu'on puisse ensemble dire « Ça, c'est pas possible, ça ne pourra pas. Ça, par contre, on va pouvoir peut-être essayer d'aller jusque-là. » Mais voilà. Et ces plans de gestion, quand même, impactent notre forêt, ou impactent, gèrent notre forêt pour les 15-20 prochaines années. Donc c'est aussi des actes importants que l'on met en place. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est que dans ce cadre-là, on a aussi souhaité, il y a quelques années, faire place, une grande place à la jeunesse, en mobilisant notre école. Et je souhaite que les enfants de notre village puissent également appréhender cette forêt. Alors, comment est-ce que l'on a fait ? On est rentré dans une opération menée par la région et que l'on a portée aussi, qui est une opération à 1 million d'arbres. Et nos enfants sont allés planter des arbres. Ça paraît anodin, c'est de nouvelles essences, etc. Bon, ça, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais ça paraît anodin, mais c'est aussi une approche concrète de comment est-ce que l'on veut faire évoluer notre manière de penser par rapport à cette forêt. Ce n'est pas uniquement un endroit où on peut venir se servir et on peut vendre des coupes, et il y a plein d'autres petits détails qu'il faut que l'on considère quand on a une gestion un peu raisonnée, raisonnable de notre territoire.
Avant de poursuivre cette discussion, je vous propose une pause musicale et on reviendra sur certains des aspects de ce que vous venez de nous partager.
C'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le MAG Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Et nous sommes aujourd'hui dans ce magazine du midi avec trois invités pour parler de la forêt autour d'un projet Forêt Commune. Je suis donc avec Sébastien Fine, maire de Villars-Saint-Pancras, Juliette Venturini, technicienne forestière à l'ONF, et Lucie Lombard de l'association Forêt Alpine. Alors nous parlions donc de ce projet Forêt Commune, comment il est mis en œuvre, notamment dans la commune de Villars-Saint-Pancras. Et donc, Sébastien Fine, vous nous expliquiez donc les enjeux aussi de l'aménagement de la forêt et l'importance pour vous d'impliquer aussi les enfants dans cette sensibilisation aux forêts. Ça me questionne sur l'invitation de tous ces acteurs autour de la table pour parler des forêts. Vous disiez donc que c'est l'ONF à la fin qui va quand même mener ce plan qui sera décidé. Vous, Juliette, quand vous travaillez, vous arrivez à prendre en compte tous ces avis, tous ces besoins, toutes ces envies des différents acteurs?
Alors, ce qu'on essaye de faire, mais ça rentre notamment dans le cadre du projet Forêt Commune, c'est de proposer des journées grand public pour accueillir du monde en forêt, leur présenter ce qu'on fait, recueillir aussi leurs besoins. On peut aussi proposer des animations scolaires à l'école de la commune. Après, le plus compliqué, c'est qu'on ne peut pas finalement être gestionnaire avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on a quand même une nécessité de réaliser en fait des travaux, et à ce titre-là, c'est vrai que chacun va avoir son métier et c'est compliqué d'aller jusqu'au bout de la décision avec eux. Mais déjà recueillir leur avis, partager avec eux et leur apprendre, leur transmettre, c'est déjà important pour nous.
Et donc auprès des enfants, donc vous intervenez dans les écoles, vous disiez, oui. Vous êtes intervenu aussi dans l'école de Villars-Saint-Pancras, alors dans le cadre de ce projet ou...
Alors mon prédécesseur, effectivement, Sébastien Fine parlait du projet d'un million d'arbres et de la plantation qui a eu lieu sur la commune. Effectivement, mon prédécesseur a réalisé cela avec les élèves de l'école, dans le but de leur présenter en fait et de leur donner envie d'aller en forêt, de prendre part en fait aux évolutions climatiques et à l'évolution des forêts en plantant des nouvelles essences par exemple. Donc c'était très intéressant à ce titre-là.
J'avais demandé les objectifs, donc c'est ça, c'est par la sensibilisation de faire en sorte que les enfants, les futurs adultes aient cette envie-là alors.
Qu'ils s'impliquent en fait, qu'ils s'impliquent dès le plus jeune âge pour leur donner envie après d'en prendre soin, de aussi comprendre dès le plus jeune âge et de transmettre à leurs parents ce qu'ils ont vu. Je pense que ça fait effet boule de neige après.
Et ça m'amène à cet événement justement de ce samedi que vous proposez. Donc vous invitez et les adultes et les enfants. Est-ce qu'on peut peut-être présenter le programme rapidement ?
Oui, donc c'est un événement intergénérationnel avec aussi des espaces et ateliers pour adultes, pour ados et pour enfants. On voulait que chacun puisse y retrouver pour parler de la forêt et pour que chacun puisse s'exprimer aussi sur la forêt. Donc en créant des espaces où chacun est libre de s'exprimer, où aussi il y a cette écoute justement que souhaite l'ONF et la mairie pour prendre au mieux en compte les attentes et besoins de chacun. Donc Juliette va proposer des ateliers pour les adultes.
Oui, je peux en dire quelques mots. Il y aura deux ateliers. Donc déjà, je vais présenter le rôle de technicienne forestière, donc de ce qu'on appelle TFT à l'ONF, sous format assez ludique, en présentant le matériel dont on a besoin et les différents aspects, donc tout ce qui est gestion multifonctionnelle avec tous les piliers à avoir en forêt, la biodiversité, la production de bois, l'accueil du public, mais aussi la protection contre les risques naturels. Voilà, présenté sous forme ludique. Et après, orienter les adultes, séparer le groupe en deux, vers deux ateliers. Un premier atelier où chaque participant pourra se mettre dans le rôle, ou en tout cas dans une fiche décrivant un rôle. Par exemple, en piochant la fiche du touriste, il va lire devant les autres participants le descriptif et va pouvoir après indiquer où il se place en forêt, quel usage il a de la forêt, pour pouvoir à la fin construire tous ensemble une carte des interactions entre tous les acteurs et que chacun puisse voir l'interdépendance entre tous, entre le scieur, entre l'exploitant forestier, le naturaliste. Voilà, l'idée de cet atelier, c'est de bien comprendre tous les usages et le partage de la forêt.
et un autre atelier qui va être plutôt technique sur les différentes gestions qu'on peut avoir en forêt en fonction des peuplements forestiers en place et en fonction aussi du respect du code forestier et des objectifs de la mairie. Donc là, c'est vraiment des mises en situation. Il y aura un plateau de jeu et les participants pourront mettre en situation les consignes donc, pour répondre à une demande. Voilà. J'en dis pas plus. L'idée, c'est que vous puissiez tous venir participer à cette rencontre du 6 décembre.
Donc ça, c'est pour les adultes. Ça, c'est tout l'animation pour les adultes. Ça permet effectivement, j'imagine, de se rendre compte des contraintes de ces actions, pour mettre en place ces actions. Oui. Pour les enfants, comment vous les amenez à communiquer leur rapport à la forêt ?
Donc il y a Clémence d'Environnement et Solidarité qui prépare plusieurs ateliers avec une fresque collaborative de la forêt où chacun pourra partager aussi des choses en relation sur ses relations avec la forêt, aussi des découvertes d'espèces d'arbres avec les feuilles, les aiguilles pour apprendre à les identifier, ou ceux qui savent déjà identifier pourront présenter aussi aux autres, parce que je crois que les jeunes à Villers-Saint-Pancras connaissent bien le mélèze et d'autres espèces aussi. Il y a aussi l'approche par les contes et différents ateliers qu'elle va proposer. Et c'est vrai qu'en fait, on va emmener ce sujet de la forêt qui est complexe, multifonctionnelle, mais en fait, c'est aussi toute sa richesse. C'est pour ça qu'elle est importante pour nous et on va voir l'attachement de chacun à cette forêt. Et je pense que c'est aussi ce qui peut nous toucher quand on voit l'attachement de l'autre et d'amener aussi à mieux comprendre l'autre et sur certains usages aussi, où des fois c'est plus compliqué dans la cohabitation des usages, de chercher aussi à ouvrir le dialogue sur ça, de travailler sur ça, à partir d'ateliers aussi qui permettent de prendre de la distance aussi, que ce soit pas interpersonnel, mais plutôt une réflexion globale sur cette forêt multifonctionnelle qui est vraiment importante à Villars-Saint-Pancras.
Ça a pu arriver sur un de ces ateliers que vous avez déjà réalisé, qu'il y ait des tensions justement entre différents usagers de la forêt.
Il y avait des questionnements, en fait, des incompréhensions. Donc après ces incompréhensions-là, en tout cas à Villars-Saint-Pancras, c'est parti sur des échanges assez techniques pour mieux comprendre pourquoi il y avait un désaccord de base. Donc des échanges très techniques sur la forêt. C'est ce qu'on a eu à Villars-Saint-Pancras par des personnes qui s'intéressent vraiment à la forêt, à sa gestion, de manière technique et précise aussi. Et c'est important d'avoir des dialogues sur ça.
Ça ouvre cet espace alors de discussion. Vous avez participé déjà, Sébastien Fine, à un de ces ateliers ?
J'ai essayé, oui, à ma modeste mesure, au printemps dernier, sur l'atelier qui avait été mis en place au mois de juin, où on a échangé. C'est vrai que les habitants, pour certains, ont des usages spécifiques, il y a des questionnements, sans rien trahir. Par exemple, lors de coupe de bois, d'ouverture de traîne et le fait que les arbres soient branchés sur place, etc. Tous les résidus, le reste de l'exploitation, pourquoi ce n'est pas enlevé, pourquoi ça reste au sol. Toutes ces explications, elles sont données, parfois au compte-goutte, parce que entre plusieurs personnes, n'ont pas forcément la même écoute. Mais à mon sens, oui, il faut continuer à expliquer. Qu'est-ce qu'on remarque le plus dans les forêts ? Qu'est-ce que l'habitant du village remarque le plus ? C'est quand il prend sa voiture ou quand il promène en forêt, les lieux où on a une exploitation qui se termine sont souvent des lieux qui dans leur esprit semblent saccagés. Tout ça, faut quand même le voir et quand même gérer. Et si les espaces sont laissés dans l'état dont on les laisse, c'est parce que la régénération, parce que la suite donne raison, parce qu'on a eu des expériences à la fois pluriannuelles mais aussi scientifiques qui permettent de justifier ce comportement-là et donc de l'expliquer et donc de continuer à transmettre et à enrichir la connaissance et la pratique. Après, c'est vrai que moi, je le vois, je le constate. on arrive sur une zone d'exploitation fraîche et on se dit, oulala, un an et demi après, la forêt a repris son droit, les essences sont revenues, les champignons sont de nouveau, là, et on peut de nouveau avoir éventuellement du pâturage sous bois, etc. etc. Donc voilà, il faut on est dans un monde c'est malheureux, mais on est dans un monde dans lequel on veut l'immédiateté, c'est-à-dire que on a une question, il faut qu'on ait une réponse immédiate, et on n'a pas forcément envie de peut-être de regarder ce qui s'est passé il y a quelques années et en tirer des conclusions. On veut une réponse immédiate et on veut surtout que la réponse parfois corresponde à ce que l'on voulait dire. Et c'est pas forcément ça qui est, et c'est là où le débat est intéressant, vraiment très intéressant, parce que moi, je côtoie des habitants qui l'usage de la forêt pour eux c'est la balade. C'est pas la consommation de bois, c'est pas la cueillette, c'est pas la chasse, c'est la balade. Et comment dans des milieux comme cela, quand cette personne-là pose une question, on est parfois dans une société qui exacerbe les réponses. Comment est-ce qu'on se pose? Comment est-ce qu'on peut apporter des argumentaires pour défendre notre point de vue et éventuellement et aussi écouter le point de vue de l'autre qui est peut-être antinomique avec ce que l'on est en train de penser. Et c'est ça qui fait la force d'une société. Ce qu'on a perdu en 2020 avec Covid, c'est que les gens communiquent de moins en moins, quoi. Et ils sont derrière des écrans d'ordinateur, avoir le... Ouais. Quand on a enlevé les masques et qu'on s'est remis face à face et qu'on s'est regardé dans les yeux, là, on regagne quelque chose, quoi. Et dans ces discussions-là et dans ces ateliers-là qui sont mis en place, le fait de se parler, de se regarder et de faire transpirer un sentiment, c'est quelque chose d'hyper important dans la société dans laquelle on vit, quoi. Alors là, c'est autour de la forêt, mais c'est aussi important pour nous.
Mais comme nous parlons de la forêt, c'est l'exemple du jour, disons, à ces questions-là. Est-ce qu'il y a des réflexions, des retours qui vous ont marqué, surpris de ces ateliers que vous avez menés?
Bah, je dirais, en fait, oui, dans le cadre du projet Forêt Commune, ce qu'on va expérimenter, développer, travailler, c'est aussi ces désaccords dont on parle, et parfois même conflits, et d'ouvrir des espaces de dialogue, d'accueillir ça, parce qu'en fait, ça peut être très riche d'en parler, et parfois, il y a même des émotions difficiles, et en fait, il faut vraiment les accueillir, de quoi elles partent, pourquoi elles sont si importantes, et de voir comment est-ce qu'on peut construire à partir de ça. Ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt que de mettre les choses de côté, et peut-être la tension peut monter, c'est d'essayer de voir si on peut pas construire des choses collectivement pour arriver à cette forêt multifonctionnelle où ça se passe bien aussi entre les usagers et acteurs, et de vraiment chercher à ce que chacun puisse s'exprimer, que ce soit par atelier, mais aussi les ateliers conviennent pas à tout le monde. Donc il y a aussi d'autres espaces de dialogue, de rencontre. Bah, par exemple, en forêt, même monsieur le maire ou l'ONF, ils sont souvent en forêt, et des fois on rencontre d'autres usagers de la forêt. Ça peut être aussi un espace de dialogue pour travailler sur tout ça aussi et arriver à concilier aussi les usages entre chacun.
Et donc là, c'est la fin du projet Forêt Commune. C'était de 2022 à 2025, c'est ça? Quelle suite à ce projet, ou en tout cas peut-être à la forêt de Villars-Saint-Pancrace?
Ben, la suite, elle est, on en a déjà parlé. La suite, c'est déjà l'ouverture du plan du plan de gestion forestière des 20 prochaines années, avec une vraie volonté de la part du conseil municipal politique de pouvoir travailler peut-être avec des personnes qui sont issues de la société civile et qui souhaiteraient participer à leur manière à des échanges en amont des réflexions qu'on peut avoir. La deuxième chose, c'est il faut continuer ce travail. Alors, on verra comment on le met en place, mais ce travail de concertation, de consultation, d'aller à la rencontre des gens. Pourquoi ? Parce que nos anciens nous ont légué un patrimoine exceptionnel. Et je crois que notre devoir, c'est de poursuivre cette action-là en léguant à nos enfants et aux générations futures le patrimoine qui ont fait que le village, qui font que le village vit, se développe et reste beaucoup en harmonie avec la nature.
Juliette Venturini, vous voulez ajouter quelque chose d'un point de vue de l'ONF ?
Alors tout à fait, il y aura le plan d'aménagement qui sera revu et effectivement l'objectif c'est de pouvoir concerter, de pouvoir discuter avec tous les usagers. Et dans ce cadre-là, je pense que la rencontre de ce samedi servira de point de départ. On pourra déjà recueillir quelques besoins et s'en suivront du coup sans doute d'autres réunions de ce type avec, et des rencontres de ce type avec Lucie et l'association Forêt Alpine, je l'espère. Et pourquoi pas aussi des événements grand public en forêt pour pouvoir toujours en fait communiquer, accueillir du monde et leur partager ce qu'on fait.
Ce n'est donc pas fini, même pour ce trio-là. Alors, pour samedi, j'ai oublié de demander les informations pratiques. Est-ce qu'il faut réserver? Est-ce que c'est gratuit, payant?
Alors, c'est gratuit. Vous pouvez venir à partir de 17h. Enfin, à 17h, ça commencera à la mairie de Villars-Saint-Pancras jusqu'à 18h45. Il y aura du chocolat chaud, du vin chaud, parce qu'il y a le marché de Noël l'après-midi. N'hésitez pas à venir aussi au marché de Noël en amont. Donc voilà, tout le monde est bienvenu, c'est vraiment pour tous. N'hésitez pas aussi, si vous hésitez à venir, à passer, regarder, quitte à rester plus longtemps, si ça vous intéresse. Ça va être un événement très riche.
Et on parlait de l'avenir donc de ce projet sur la commune de Villars-Saint-Pancras, mais peut-être aussi pour Forêt Alpine, quel projet à venir?
Alors l'association Forêt Alpine, elle va continuer sur les actions participatives, aussi sur la forêt, d'apprendre sur la forêt collectivement, de développer les sciences participatives, donc comment nous on peut participer aux connaissances scientifiques en observant les forêts sur le territoire, et tous les travaux avec les scientifiques qui sont très motivés aussi, et les différents usagers et acteurs des forêts.
Eh bien merci à tous les trois, c'est la fin de cette émission. Donc on suivra vos projets respectifs. Merci d'être venu présenter cela à notre
micro.
Merci.
Merci
beaucoup.
Et auditeurs, auditrices, bonne journée à toutes et tous. On se retrouve la semaine prochaine.
Il y avait un orme près d'une maison. Il y avait un orme long comme un rêve d'enfance. Il y avait un orme que nous aimions tant. Et quand on grimpait dedans, on y trouvait sa chance. On avait chacun sa branche, les plus petites en bas. On s'y déchirait les manches, on s'y écorchait les bras. On grimpait dans les étoiles, et quand ça balançait trop, on envoyait la grand voile encore plus haut. Il y avait un orme près d'une maison. Il y avait escalade, on s'est fait des souvenirs, mais les enfants dans les arbres finissent bien par grandir. On partait l'un après l'autre, les petites qui gagnaient, à leur tour les branches hautes s'ennuyaient. Il y avait un homme près d'une maison, il y avait un homme long comme un rêve d'enfance, il y avait un que l'orme avait soudain dépéri. Quand on regarda ses frères, on vit qu'ils mouraient aussi. Rien de ce qu'on put leur faire ne réussit. Il y avait un orme près d'une maison. Il y avait un orme long comme un rêve d'enfance. Il y avait un orme que nous aimions tant. Et quand on ce qui fait mourir les armes pourra faire encore bien plus. Il ne faut pas qu'on s'endorme là-dessus.